Bonjour à ceux que je n'ai pas pu encore saluer, soyez les bienvenus. Donc comme Mathieu l'a dit, et comme aussi et Emmanuel, le 1er et 2 février, on a eu la joie d'être en Angleterre pour une conférence prophétique avec Mathieu. On n'était pas en couple, mais en tout cas, on était entre meilleurs amis. Et c'était un temps super, on n'avait pas forcément prévu d'y aller, ça s'est décidé un peu au dernier moment. Mais c'est ça qui est fabuleux avec Dieu, c'est que parfois ça vient comme ça, c'est spontané, et puis on sait que c'est un rendez-vous divin. Et ça a été pour tous les deux. On a vraiment vécu des choses extraordinaires, et je renforce ce qu'Emmanuel a dit. Écoutez vraiment le prêche de Mathieu de la semaine dernière sur tout ce que le Seigneur nous a dit, c'est très fort. Et alors que je préparais, je pense que c'est pareil, c'est pas un hasard, parce que ça, pareil, ce n'était pas planifié, que comme par hasard, c'est Mathieu qui prêche et le week-end d'après, c'est moi. Et j'ai vraiment senti que le Seigneur voulait que j'aille plus loin sur des choses qui m'ont touché aussi, qui sont complémentaires de ce que Mathieu a dit, mais que je sens qu'ils ne sont pas seulement pour moi ou pour Mathieu ou pour nos familles, mais vraiment pour l'Église Connect, pour Montélimar, pour la Drôme, pour vraiment ce qu'on a à cœur de vivre. Et donc je vous encourage à être attentifs, parce que je sens que beaucoup de choses que je vais partager sont prophétiques et vont se produire dans les prochaines semaines, prochains mois, et je sens que Dieu veut faire quelque chose de nouveau, quelque chose de très fort en nous. Donc j'espère que vous êtes accrochés. Donc une chose qui nous a vraiment transformés et qui nous a beaucoup parlé, c'est que notre espérance est en Christ. Et ça, c'est une phrase vraie, mais qui veut dire beaucoup de choses. Mais surtout que nous n'espérons pas du futur. Pardon, nous n'espérons pas pour le futur, mais notre espérance vient du futur. Et quand on a entendu cette phrase-là, que je répète, nous n'espérons pas pour le futur, mais notre espérance vient du futur, c'est incroyable comme ça change notre façon de voir les choses et notre façon d'appréhender l'avenir. Donc je vais expliciter, parce que peut-être que ça ne sonne pas très français, mais simplement dire que dans ce monde, souvent, on dit « bon, ben, j'espère que demain ira mieux ». J'espère qu'on est toujours dans cette espérance, mais vous savez, peut-être interrogative, de dire avec un point d'interrogation, Seigneur, voilà, j'espère que demain sera mieux, j'espère que dans un mois, nos finances iront mieux, j'espère que le monde ira mieux. On est toujours dans... c'est vrai que le monde est un peu dans cette espérance, et même des fois pas, des fois ils sont carrément dans le désespoir, mais pour ceux qui ont encore un peu d'espoir, c'est on espère, il se peut que demain soit mieux. Alors qu'en tant que chrétien, en tant que fils et fille de Dieu, on sait quelle est la fin, on sait quel est le futur, puisque la parole nous dit que Jésus a vaincu la mort. La parole nous dit que nous héritons de la vie éternelle, et pas simplement de la vie, mais de la vie en abondance. Et quand on vit notre vie avec cette mentalité, avec cette certitude de comment ce monde va se terminer, peu importe s'il y a une troisième guerre mondiale, peu importe si les choses deviennent plus compliquées, on sait qu'à la fin, c'est Dieu qui a le dernier mot. Il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Et quand on vit notre vie avec cette certitude-là, mais en fait, on est dans la paix. Parce qu'on dit, mais Seigneur, quoi qu'il arrive, je sais, Seigneur, que tu auras toujours le dernier mot. Et ça nous a bousculés. Parce que moi, le premier, des fois, on est tous humains. Je viens, pour ceux qui ne savent pas, de démarrer ma propre entreprise en tant qu'expert comptable. Et même si expert comptable, forcément, donc on se dit, ça gagne beaucoup d'argent, je peux vous assurer que ça reste quand même un défi de quitter son emploi, de se mettre à son compte, de gérer tout l'administratif, de tout gérer. Et parfois, on peut être dans cette peur, dans cette crainte, de dire, mais Seigneur, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je vais manquer? Je suis le seul revenu de ma famille, donc ce n'est pas neutre. Mais vraiment, j'ai senti que Dieu m'a dit, vas-y, donc j'y suis allé. Et donc, quand j'ai entendu cette parole-là, mais ça m'a reparlé, je dis, mais Seigneur, je sais que tu es avec moi. Quoi qu'il arrive, Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et je sens que c'est un encouragement pour chacune de nos familles. Quoi que tu expérimentes, que tu sois aujourd'hui dans une saison de joie, dans une saison de deuil, dans une saison de complications, sache que Jésus est avec toi jusqu'à la fin du monde. Et donc si tu bases ta vie, si tu bases tes comportements sur cette réalité-là, ça va changer ta manière d'agir. Parce que tu n'es plus dans la crainte, tu n'es plus dans... l'expectative de dire ben, j'espère que, non, tu es dans, je sais que mon rédempteur est vivant, je sais que Jésus est avec moi. Ah oui, j'ai oublié, c'est pas grave. Et j'avais un PowerPoint, mais j'ai complètement oublié de le préparer, c'est pas grave. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15, verset 13, je le répète, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Quand on est dans l'espérance, dans cette espérance-là que Dieu nous donne, eh bien, on est rempli de toute joie et de toute paix. Et c'est là, les amis, où on fait la différence. Quand notre voisin, quand nos collègues de travail sont dans la peur, sont dans la crainte, mais qu'est-ce qu'on va manger demain, qu'est-ce qui va se passer? Nous, on est remplis de toute joie et de toute paix. Pas parce qu'on est meilleur qu'eux, pas parce qu'on fait des meilleurs choix forcément qu'eux, simplement parce que Jésus habite en nous. Et le Seigneur nous encourage à partager cette bonne nouvelle, à vraiment être des artisans de paix. Et je crois vraiment que c'est un temps pour la France où il y a tellement besoin de cette paix que Jésus seul donne. Et je sentais que le Seigneur voulait nous encourager à dire, à qui veux-tu faire partager cette paix? Peut-être ton voisin, peut-être dans ta famille, peut-être ton collègue de travail, ils ont tellement besoin de cette paix. Et je sens que le Seigneur, dans les prochains jours, va nous mettre certaines personnes à cœur pour aller l'encourager, pour aller le rassurer au nom du Seigneur. Parce qu'on sait quelle sera la fin. On sait que notre Rédempteur est vivant et Jésus met en nous cette paix. Il est le prince de la paix. Et c'est vrai que ce que nous voyons se passer en France et ce que les médias véhiculent, hein, qu'il y a un peu de vrai, il y a aussi un peu de faux, entre les gilets jaunes, le manque de pouvoir d'achat, les attentats, etc. C'est facile, même nous, en tant que chrétiens qui avons cette espérance, de nous laisser divertir et de tomber dans la peur. Moi, je regarde très peu les infos, je préfère lire, mais je sais que quand j'ai tendance à trop lire, moi le premier, je commence à avoir peur, dire pétard, mais où on va quoi? On marche sur la tête quoi, où on va? Et de quoi on se nourrit parfois, ça a des conséquences. Et c'est tellement important de ne pas être ébranlé par tout ce qui se passe, parce qu'on sait qui a le dernier mot, c'est Jésus. Et c'est vrai qu'entre les menaces de guerre nucléaire, les sentiments d'une guerre civile qui pourrait à tout moment démarrer dans nos propres pays, tout ce qu'on peut entendre, des fois on se dit « Waouh, Seigneur, ça fait peur !» Mais nous savons que notre Rédempteur est vivant et qu'il restera le dernier debout sur la terre. Job 19, verset 25. « Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Romains 8, verset 28. « Et que Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, verset 1, vous voyez, toutes ces paroles-là qui sont des vérités et qu'on a besoin de reproclamer, de ne pas laisser notre esprit, notre âme, vraiment se laisser, entre guillemets, empoisonner par cette peur qu'on peut sentir. Mais nous avons cet appel à proclamer une autre voix qui n'est pas celle de la peur, mais celle de l'amour. Parce que l'amour parfait bannit la peur. L'amour, c'est l'antipode de la peur. Et quand on aime, quand on est rempli de l'amour de Dieu, on ne craint pas. On dit, mais son Dieu m'aime, donc il a le meilleur pour moi, il a des projets de paix et non de malheur. Il sait vraiment ce qui est le meilleur, sa volonté, rappelons-nous, hein, elle est bonne, agréable et parfaite. Donc, qu'est-ce que j'ai à craindre? Qui peut me faire du mal? Personne. C'est Dieu qui est au-dessus de tout. Donc, on peut être dans cette assurance, dans cette espérance-là. Et je sens que c'est un temps pour nous, en tant qu'Église Connect, famille, de partager cette espérance. Le monde est dans le désespoir, les amis. Le monde, vraiment, attend cette nouvelle, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Annonçons-la, juste partageons cette paix qui nous habite, partageons ce que Dieu fait en nous. Et vous allez être un instrument de bénédiction pour ceux qui vous entourent, j'en suis sûr. Si on traverse les eaux, Dieu sera avec nous. Et les fleuves, ils ne nous submergeront point. Si on marche dans le feu, on ne se brûlera pas, et la flamme ne nous embrasera pas. Ésaïe 43, versets 1 et 2. Dieu est notre espérance, et cette espérance ne s'éteint jamais, jamais. Et aussi, un autre ancrage, je trouve, pour notre espérance, c'est on sait où est notre maison. Vous savez que nous sommes comme des étrangers, comme le dit la parole. Ici, ce n'est pas notre habitation. Nous sommes citoyens du ciel. Notre maison, les amis, elle est là-haut. Ici, on est juste de passage pour amener le royaume de Dieu, pour proclamer cette bonne nouvelle de l'évangile, mais on n'est que de passage. Et donc, quand on agit avec cette conviction et avec ce rappel en nous que notre maison est là-haut, là où il n'y a plus de pleurs, plus de maladies, plus de mort, mais la joie éternelle avec Christ. Et la bonne nouvelle, c'est que la parole nous dit que nous régnerons avec lui. Rappelez-vous ces paroles dans 1 Timothée 2, verset 12. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui. Et peut-être que parfois on passe par des souffrances, on passe par des moments difficiles. Peut-être qu'un jour nous serons peut-être persécutés pour notre foi. Nous avons la chance encore aujourd'hui en France de ne pas être persécutés. Mais on a été extrêmement touchés, et je vous en parlerai un peu plus loin, par le leader de Louange qui parcourt beaucoup de 20 pays par an et des pays très très chauds comme l'Irak, comme l'Afghanistan, des pays où les chrétiens sont persécutés pour leur foi, vraiment mis à mort, torturés. Et lui, il prend sa guitare et il proclame et il prophétise et il intercède pour les pays là où il est et il aide. Il y a plein de convois humanitaires, tout ça, et il est avec ces personnes qui sont dans le besoin, qui n'ont pas à manger, et il prie avec eux, il prend sa guitare et il loue le Seigneur comme on l'a fait là. On loue vraiment d'une place parce que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Et il loue et il proclame que Dieu est bon. Et il voit miracle sur miracle. Et je vous en parlerai un peu plus loin. Mais je dis, aujourd'hui, on a la chance de ne pas être persécuté. Mais peut-être qu'un jour, on le sera. Mais même si on souffre avec Christ, on règnera avec Christ. Et on règne déjà avec lui. Et nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes appelés à régner avec lui. Et gardons ça en tête, c'est tellement important, je trouve, dans la saison où l'on rentre, de garder tout ça à l'esprit, de dire nous régnons avec Christ et nous régnerons pour l'éternité avec lui. Christ est notre espérance, c'est la première chose qui m'a vraiment marqué. Et la deuxième chose, et Matthieu en a déjà parlé un peu, c'est que Dieu voulait faire un recalibrage dans nos vies, et il a parlé de plein de choses très pertinentes. Mais ce que Dieu m'a rappelé aussi, c'était que le Seigneur veut élargir l'espace de notre tente et élargir notre champ de vision. Comme je vous l'ai dit, ce leader de Louange, il va dans des pays difficiles et il nous a rapporté deux témoignages qui nous ont complètement bouleversés, il faut le dire. Le premier témoignage, c'est qu'un jour, il s'est retrouvé dans un camp de réfugiés, je ne sais plus dans quel pays, où il y avait des milliers de réfugiés. Et alors qu'il était avec le convoi humanitaire, la nourriture commençait à manquer. Et donc, tous commençaient un peu à paniquer, quelques heures, un jour, deux jours, trois jours, et il n'y a pas de nourriture. Et il s'est dit, ben, on fait quoi ? Et donc, il a réuni toute son équipe, ils se sont mis dans une tente. Et puis ils se sont dit, ben, on va louer jusqu'à ce que la nourriture arrive. Et donc il a pris sa guitare et puis ils ont commencé à déclarer, Seigneur, tu es bon. Alors qu'ils n'avaient plus à manger, ils ont proclamé, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Ils ont loué, 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 loué pendant plusieurs heures. Ils ont déclaré ce que la parole dit. Et après plusieurs heures de louange et de prière, ils sont sortis. Et là, le miracle, c'est que Dieu a pourvu, et si je ne me trompe pas, mais c'est ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a un camion rempli de nourriture qui est arrivé au campement permettant à tous les réfugiés d'être nourris. La puissance de la louange, les amis, la puissance de la louange. Quand on est au fond du gouffre, quand on ne voit plus d'espoir, proclame le nom du Seigneur, proclame qu'il est bon et qu'il est merveilleux, et il interviendra en ta faveur. Il interviendra en ta faveur. Déclare la réalité de qui est Dieu, même si tu ne le vois pas, même si tu n'as plus à manger, même si tu vis, même si tu traverses la maladie, même si tu ne comprends pas ce qui se passe, proclame qui est Dieu. On ne loue pas en fonction de nos circonstances, mais on loue en fonction de ce que Dieu a fait pour nous. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Peu importe par là où tu passes, Dieu est fidèle. Tu peux parcourir le monde entier, tu peux renier Dieu, tout ce que tu veux, il restera fidèle. Dieu est bon, c'est une vérité, Dieu est bon. Et donc, il pourvoit à tous nos besoins. Et il nous dit à plusieurs reprises dans Matthieu et dans Luc, dans Matthieu 6, ne vous inquiétez pas, du lendemain. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous vêtirez, parce que le lendemain se suffira de vous-même. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Et je sens que, alors que je préparais ça, je sens qu'il y a comme un accablement pour certains d'entre vous, ou peut-être que vous passez par des moments difficiles, mais je sentais que le Seigneur voulait vous donner cette parole. Ne regarde pas à tes circonstances, mais regarde à lui. Lève les yeux. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. Regarde, le Seigneur vient. Ne regarde pas avec tes yeux humains, mais regarde avec tes yeux spirituels. Vois que Dieu va intervenir en ta faveur. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle à être. C'est des sentinelles, c'est des hommes et des femmes qui ne regardent pas aux apparences, aux circonstances, mais qui regardent aux choses invisibles. Et quand Dieu te parle, quand Dieu te donne des promesses, te donne des songes, des visions, c'est qu'il va intervenir. Jamais il te mentira, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Mais tout ce qu'il te dit, il le fera. Et ça, c'est important. Et je crois qu'on a besoin de grandir en maturité pour ne plus s'attacher aux choses visibles, mais chercher les choses invisibles et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire dans cette saison de ma vie? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire au milieu de ma souffrance? Et Dieu va te parler et il va t'encourager et il va te donner des paroles précises pour ta vie et pour ta famille, pour ta situation, pour que tu puisses dépasser cette montagne qui est devant toi, et tu vas voir avec lui, tu as la victoire. Tu as la victoire. Et le deuxième témoignage extraordinaire, c'est incroyable. Donc si je ne dis pas de bêtises, hein, tu peux me corriger Mathieu, mais il était en Irak et il nous a montré d'ailleurs la vidéo d'un homme qui a... Alors vous savez que dans ces pays-là, ils vivent des choses incroyables. Jésus se révèle lui-même par des rêves, par des songes. Donc il y a énormément d'habitants dans ces pays-là qui voient Jésus, qui voient un homme en blanc dans leurs rêves. Et donc justement comme vous et moi là, donc qui le voient devant, c'est même pas des rêves, oui, c'est pendant leur jour ou leur nuit. Et ce qui était incroyable, c'est que donc on voit cet homme qui raconte qu'il a vu Jésus et il a voulu le partager à son village. Alors je sais plus si c'était juste sa famille ou ses amis. Et vous savez que dans ces pays-là, c'est un blasphème. Quand vous dites « j'ai vu Jésus, tout ça », on vous lapide. Et donc, c'est ce qu'ils ont voulu faire. Ils lui ont versé des bidons d'essence sur lui. Ils l'ont, je pense, roué de coups. Et ils ont essayé de le faire brûler. Alors, la première fois, ils n'ont pas réussi. Et ça les a un peu agacés. Et donc, la deuxième fois, ils ont versé plus de 10 litres d'essence sur lui. Et ils l'ont fait brûler. L'essence s'est consumée. Et lui, il n'avait rien. Rien du tout. Dieu n'est pas extraordinaire. Dieu n'est pas extraordinaire, les amis. C'est le Dieu des miracles. C'est le Dieu de l'impossible. On ne parle pas d'un Dieu comme vous et moi, simplement homme. Il est pleinement Dieu et pleinement homme, mais il est surtout pleinement Dieu. Rien n'est impossible à lui. Il peut tout. Il peut tout. Et cet homme qui a osé dire « j'ai vu Jésus au prix de sa vie, Dieu l'a gardé ». Et la troisième fois, ils ont réessayé de le brûler. Ils n'ont pas réussi, tellement énervés qu'ils ont dit « allez, casse-toi, parce que là vraiment, parce qu'on en a marre ». Et ce gars, il témoignait, vivant aujourd'hui, persécuté pour sa foi, mais Dieu l'a gardé. Et ça nous rappelle ce merveilleux épisode dans la Bible, dans Daniel, rappelez-vous. Je perds toujours leur nom, Shadrach, Abednego et Meshach, merci. Qui sont dans la fournaise. Je crois que Nebuchadnezzar, donc il a fait chauffer 7 fois plus cette fournaise, au point que les gardiens eux-mêmes ont été brûlés, alors qu'ils jetaient ces 3 personnes dans la fournaise. Et le roi dit, mais je vois un quatrième homme qui a l'apparence d'un fils de Dieu, et c'était Jésus qui était avec eux, et ils sont sortis. Sans sentir la fumée, sans rien, ils étaient en vie. Et ce qu'on lit dans la Bible, parfois, on a du mal à dire, mais est-ce qu'aujourd'hui, ça peut encore se passer? Mais oui, c'est le même. C'est le même Dieu, hier, aujourd'hui et éternellement. Et Jésus lui-même a dit, ce que j'ai fait, vous ferez des choses encore plus grandes. Donc, attendons-nous, je veux vous encourager, je veux nous encourager à rêver, à croire qu'il est le Dieu des miracles, pas seulement en Irak ou dans ces pays-là, mais ici, en France. Et on a pu l'expérimenter pour ceux qui étaient là lors de la conférence du Cœur du Père en novembre. On a vu plus de 20 guérisons. Mais qui aujourd'hui d'entre nous peut guérir quelqu'un? Personne. Il n'y a que Dieu qui peut. Il est le Dieu des miracles. Et ça, ça nous a bouleversés. Il est le Dieu des miracles. Et c'est tellement magnifique qu'ils ont arrêté en fait presque de prêcher. Ils démarrent par dire, bon, qui a vu Jésus en vision? Et il y a souvent 2, 3, 4, 5, 10 mains qui se lèvent tellement que Jésus se révèle dans des visions à beaucoup de personnes là-bas. Et ça leur permet d'annoncer l'évangile. Et il y a des dizaines de conversions. Jésus est à l'œuvre aujourd'hui. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Et je sens cet appel pour chacun d'entre nous. Et on pourrait changer les mots, je me permets. Vous serez mes témoins à Montélimar, dans la Drôme et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu veut élargir l'espace de notre tente. Dieu veut élargir nos piquets pour qu'on voit encore plus grand. Et je me suis senti repris, moi, personnellement, parce que même si voilà, je suis convaincu que Dieu nous a appelés à Montélimar, pour cette région de la Drôme, on sait qu'ici, il va se passer quelque chose de fort, et ça commence déjà, pas qu'avec notre église ici, mais toutes les communautés, on sent que le Seigneur que son esprit va souffler à nouveau. Il y a quelque chose de fort qui va se passer, mais je sens qu'au-delà de ça, Dieu m'a dit, mais rêve plus grand, c'est pas que Montélimar, c'est pas que la Drôme, c'est la France, c'est le monde, c'est les nations. Et je crois qu'on a, qu'on a cet encouragement du Seigneur. Alors certes, aujourd'hui, dans notre ville de Montélimar, là où on est, d'être un témoin, mais aussi de prier pour ces nations. Prier là où le Seigneur nous mettra certaines personnes à cœur, certaines régions à cœur. Je vous encourage, intercédons. C'est tellement important d'intercéder pour ces nations, pour ceux qui souffrent, pour nos frères et sœurs qui se battent pour leur foi avec l'amour, avec des armes qui ne sont pas les armes de ce monde. C'est pas des pistolets, c'est pas des épées, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la parole de Dieu. C'est avec ces armes-là qu'ils se battent. C'est avec ces armes-là qu'ils annoncent l'évangile au péril parfois de leur vie. Et je sens que le Seigneur veut que nous soyons sans cesse transformés par le renouvellement de notre intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait, sa volonté. Rappelez-vous ce verset juste avant qui dit « Ne vous conformez pas au monde présent », Romains 12, verset 1. Mais soyez sans cesse transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et je pense que notre danger en tant qu'occidentaux, c'est de tomber un peu dans ce matérialisme, de tomber un peu dans cette oisiveté. Et vraiment, je jette aucune pierre, moi le premier. Mais je sens qu'il y a cet appel de toujours revenir à la source. Revenir, Seigneur, quel est mon but sur cette terre? Qu'est-ce que tu as voulu, Seigneur? Quelle est ma mission pour aujourd'hui? Et je pense que cette question, je vous invite à la poser au Seigneur. Seigneur, où tu veux m'utiliser, Seigneur? Alors, laissons-nous toucher par le Seigneur afin de prier, d'intercéder, d'aller là où le Seigneur nous enverra. Cela peut être la commune d'à côté, comme ça peut être un pays de l'autre côté du globe. Cela peut être simplement intercéder pour une ville ou une nation, ou aller pour un temps limité, peut-être de quelques jours ou pour une saison, dans un pays différent. Peu importe la forme, le plus important étant de se laisser conduire et de réaliser que Dieu veut nous utiliser pour impacter l'endroit où il nous place et au-delà de notre ville. Apprendre à voir les choses au-delà de notre environnement quotidien et de demander à Dieu qui nous montre ce qu'il est en train de faire dans la région, en France et dans le monde entier. Parce qu'il y a un seul esprit. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Ça vous est jamais arrivé, des fois, vous parlez avec des frères et sœurs qui sont d'autres régions, d'autres pays même, et on voit que le Saint-Esprit fait la même chose dans les cœurs, fait la même chose dans les villes, dans les pays, parce que c'est le même esprit. C'est le même esprit qui souffle en France et en Afrique. C'est le même esprit qui souffle en Asie et en Angleterre. C'est le même esprit, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Et c'est le même qui souffle. Et on sent que le Seigneur fait certes plusieurs choses dans des régions, tout ça, mais on sent comme un mouvement de réveil dans le monde entier. Et je vous encourage, est-ce que vous avez envie d'être partie prenante de ce réveil? Vous avez envie? Moi, en tout cas, j'ai vraiment envie. Alléluia. Et Dieu nous a donné, Jésus nous a donné cette mission. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28. Allez prêcher et dites, le royaume de Dieu est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Matthieu 10. Voilà notre mission, les amis. De faire des nations de disciples, des disciples, de guérir les malades, de chasser les démons, ressusciter les morts. C'est ça, notre mission. Et je pense que le Seigneur veut dire, mais reviens à cette mission première, reviens à la simplicité de l'Évangile. C'est simple, l'Évangile. Et qu'est-ce qu'on peut compliquer les choses parfois ? Pardon, Seigneur, mais pardon pour tout ce que j'ajoute qui me fait perdre du temps. Revenons à l'essentiel. C'est ça, l'essentiel. C'est que le monde soit sauvé. C'est qu'ils entendent ce beau message de Jésus qui est l'espoir de ce monde. Waouh, Seigneur, plus de toi encore dans nos vies, Seigneur. Plus de toi encore, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Je sens ce feu qui brûle, Seigneur, en toi et que tu veux nous communiquer. Communique-nous, Seigneur, ce feu pour les perdus. Donne-nous cette compassion, Seigneur, pour ceux qui souffrent. Seigneur, je prie que tu élargisses l'espace de notre tente, de notre simple nombril, de notre simple famille ou ville. Mais Seigneur, donne-nous ce privilège de voir ce que tu es en train de faire, de vraiment sentir ce que tu es en train de faire en France, dans les différents pays du monde. On veut être partie prenante, Seigneur. On ne veut pas être endormi, mais on veut se réveiller. On veut se réveiller, Seigneur, parce qu'on veut voir ta gloire se manifester dans ce monde. Réveille-nous aujourd'hui, Seigneur. C'est le cri de nos cœurs. C'est le cri de nos cœurs, Seigneur. Nous voulons que ta présence se manifeste là où nous sommes, Seigneur. Alléluia. Souffle encore, Saint-Esprit. Souffle. Souffle. Viens toucher. Et je prie, Seigneur, que ce qu'on peut entendre, tous ces témoignages d'Irakiens ou autres qui te voient en sang, je prie que ça puisse se manifester aussi ici, Seigneur. Je prie que des Français puissent te voir, Seigneur, en songe, que des Français puissent te voir face à face, dire, mais j'ai vu un homme vêtu en blanc, mais qui c'était ? Et que nous, simplement, eh bien, on puisse leur dire, c'était Jésus. C'était Jésus qui t'accueille dans sa maison. Seigneur, je prie vraiment pour des signes et des prodiges dans ce pays de la France. Alléluia. Et autre chose qui m'a bouleversé aussi, c'est la prière n'est pas une option pour notre vie chrétienne, les amis. Je sais qu'on le sait, mais est-ce qu'on le vit réellement ? Et moi, en tout cas, j'ai été repris parce qu'il y a un an et demi, j'ai vu un film que sûrement beaucoup ont vu, War Room. Pour ceux qui l'ont vu, je vais raconter vite fait l'histoire. Mais War Room, c'est l'histoire d'une vieille dame qui doit avoir une soixantaine d'années, je pense, ou 70 ans, qui s'est fait dans 3 mètres carrés. C'est... Pourquoi, j'ai dit quoi ? J'ai dit vieille dame, pardon. Excusez-moi, une dame mature, très mature, voilà. Alors je rappelle que les cheveux blancs sont la sagesse, voilà. Bon bref, sont le couronnement de la sagesse, désolé. Mais tout ça pour dire que, c'était pas le point, que cette dame très jeune a mis à part 3 mètres carrés de sa maison, c'est un tout petit couloir, c'était son dressing. Et elle a mis plein de post-it qui sont tous ces sujets de prière accrochés au mur. Et tous les jours, matin, peut-être midi, soir, peu importe quand elle le sent, elle prend du temps pour prier et pour intercéder pour les sujets que Dieu lui mettra à cœur. Et cette femme voit des réponses incroyables. Et je n'ai pas le temps de tout raconter, mais quand j'avais vu ce film, ça m'avait touché. J'avais dit, mais Seigneur, c'est ça. Et qu'est-ce que dit la parole ? Quand tu pries, ferme ta porte. Et ton Père qui te voit dans le lieu secret te le rendra. Et je crois qu'aujourd'hui, dans ce monde qui va à 100 à l'heure, on n'arrête pas entre tout. Enfin, moi, j'ai deux jeunes enfants, comme je vous dis, je démarre une nouvelle activité, tout ça. Et c'est très facile d'être embarqué dans ce train. Bam, 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 bam. Et combien on a besoin de s'arrêter et de prier. Et je crois vraiment qu'on doit revenir vraiment à cette intercession, à cette discipline de prier. Parce que prier, ce n'est pas ennuyeux. Quand on voit des réponses, quand on voit Dieu agir, ça ne peut pas être ennuyeux. Et je me souviens, quand on était à Nîmes avec Elodie, il y a une amie à nous qui nous envoie un texto, parce qu'on était assez proches, et qui nous dit, mon fils passe des examens, donc il avait un an ou deux, et c'est peut-être très grave. Et peut-être, et c'est pas dit qu'il puisse survivre. Et on était émus de compassion avec Élodie. Et je me souviens, on s'est mis à genoux ensemble et on a intercédé pour cet enfant. On a dit, non Seigneur, cet enfant, il t'appartient. Et on a vraiment déclaré vraiment le nom de Jésus sur cet enfant. On a ordonné à la maladie de partir au nom de Jésus-Christ. Quelques jours après, cet enfant a été complètement guéri. Et je ne dis pas... Et une fois de plus, ce n'est pas que nos prières à nous. D'autres ont prié, mais c'est vous dire la puissance de la prière. La prière du juste a une grande efficacité. Et pour ceux qui ont peur de ne pas être juste, rassurez-vous, juste, ça ne veut pas dire parfait. Ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de bien. Ça veut simplement dire que tu es un ancien pécheur racheté par la grâce de Dieu. Racheté par le sang de Jésus qui a coulé pour toi. C'est ça, juste. Nous sommes tous des justes, tous appelés justes. Donc la prière du juste a une grande efficacité. Et le Seigneur nous encourage à prier et à intercéder. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu fait des choses incroyables. Et je pense que c'est dans la continuité de ce que Dieu nous a vraiment dit de mettre en place les groupes de maisons. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on a vraiment senti que sur cette année 2019, alors que nous grandissons ensemble, qu'il était important de commencer des groupes de maisons. Donc on a trois groupes, un groupe sur Mondragon, sur Montélimar et sur Heure. Et je vous encourage à ce que ces lieux de groupes de maisons soient des lieux de prière et d'intercession, de louange. Que nous déclarons, que nous puissions prier les uns pour les autres, pour nos sujets, pour ce que nous traversons, et nous allons voir des miracles. Et je me souviens, dans les groupes de maisons où j'étais anime, on tenait un cahier de prière. Je vous promets, les amis, il y a plus de 80% où Dieu avait répondu. Mais des dizaines et des dizaines de sujets, des maladies, des travails, des... incroyables, Dieu répond. Et j'en suis sûr que si chacun d'entre nous, on écrit toutes les réponses que Dieu nous a données, on sera étonné. Parce que l'homme est oublieux. Et je pense que nous avons cet appel du Seigneur à écrire pour se souvenir de ce qu'il a fait. C'est tellement important. Alors, il y a urgence pour chacun d'entre nous à faire de la place dans notre emploi du temps pour la prière. Car la prière n'est pas optionnelle. Et pour aller plus loin, donc, dans ce film War Room, comme je vous l'ai dit, il y avait cette pièce qui était... dédicacé pour Dieu. Et moi, j'ai envie de nous challenger. Où est ta pièce de prière? Réfléchis dans ta maison. Ça peut être ton cabanon, ça peut être ton grenier, je sais pas. Mais quelle pièce de ta maison ou ailleurs veux-tu mettre à part pour Dieu? Pour vraiment aller prier régulièrement, intercéder. Et pourquoi pas écrire ces post-it avec ces sujets de prière. Et ça peut être seul, mais tu peux aussi le faire à deux. Peut-être, quel est ton partenaire de prière? Peut-être, prends ton ami, dis, ben, tiens, pourquoi pas se voir chaque semaine ou tous les matins, je ne sais pas, pour prier ensemble. C'est tellement important. Dieu fait des choses extraordinaires, mais rappelons-nous que tous les réveils qui se sont passés, et j'ose dire tous, ce n'est pas certain, tous les réveils qui se sont passés en Angleterre, en France, aux États-Unis, partout, comment ça a démarré? Ça a toujours démarré par un homme, une femme, un groupe de personnes qui sont réunies pour prier et pour intercéder pour la nation. Donc si tu veux voir ta famille sauvée, si tu veux voir ton église renouvelée dans l'esprit, si tu veux voir la France transformée par la vie de l'esprit, prie. Si on ne prie pas, les amis, je m'excuse, mais je pense que peu de choses se passeront. Nous avons ce mandat du Seigneur de déclarer la vie sur cette France. De déclarer la vie sur les sujets que le Seigneur nous mettra à cœur. Nous sommes un royaume de prêtres, de sacrificateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur, nous pourrons faire monter ces sujets, monter vraiment ce que le Seigneur nous met dans nos tripes pour l'apporter au Seigneur, dire « Seigneur, interviens en notre faveur, interviens pour telle ou telle personne. » C'est nous qui avons ce mandat-là, c'est nous qui avons ce libre accès au trône de Dieu. Alors ne nous en privons pas, mais intercédons. Et nous allons voir des choses extraordinaires. Moi, je veux le réveil. Je veux le réveil pour cette France. Je veux le réveil pour Montélimar et pour la Drôme. Et vraiment, je le ferai avec toute ma force, toute mon énergie. Parce que c'est à ça que le Seigneur nous a appelés, à voir son royaume se manifester. Et moi, je prie que le Seigneur ouvre les yeux de nos cœurs, qu'il illumine les yeux de nos cœurs pour qu'on discerne qu'est-ce qui nous distrait aujourd'hui dans nos vies, qu'est-ce qui prend trop de place dans nos vies pour qu'on revienne à l'essentiel, à l'intercession, à la prière, à la louange, à proclamer, à amener son royaume. Tout passera, les amis, tout passera, mais ses paroles ne passeront pas. Mais son règne est éternel. C'est tout ce qui restera. Alors, investissons dans l'invisible, investissons dans le ciel, investissons dans notre futur, parce que nous serons là-bas pour l'éternité. Investissons. Et moi, mon cœur, mon feu, c'est qu'un maximum soit sauvé. Et je suis certain que c'est le même pour vous. Mais on a besoin d'être actif. Même si Dieu est à l'œuvre, même s'il peut tout, il nous a rendus participants. Alors qui se lèvera pour moi ? Dieu dit, qui se lèvera pour moi ? Qui marchera pour moi ? Est-ce que tu veux répondre, me voici aujourd'hui ? Je marcherai pour toi, Seigneur. C'est la question que le Seigneur te pose aujourd'hui. Réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi, toi qui dors. Car le Seigneur fera paraître sa lumière sur toi. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Je vous invite à fermer vos yeux. Alléluia, Seigneur. Viens, Saint-Esprit.